Radio Prague International en français, les informations.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous, voici les titres avec d'abord une conférence internationale de donateurs pour l'Ukraine annoncée pour la présidence européenne de la République tchèque. À Prague, le centre d'assistance aux réfugiés ukrainiens déménage. Et puis Bruxelles entame une procédure contre Prague à propos d'un tri des déchets insuffisant. Prague prévoit d'organiser une conférence internationale de donateurs pour l'Ukraine pendant sa présidence de l'Union européenne au second semestre de cette année. C'est ce qu'a déclaré mardi le ministre des Affaires étrangères tchèque Jan Lipavský après une rencontre avec ses homologues de Slovaquie, Hongrie, Autriche et Slovénie. À Štyřín, près de Prague, avec la République tchèque. Cette alliance informelle entre ces cinq pays est connue sous le nom de Central 5. Jan Lipavský a également déclaré que la République tchèque ferait pression pour faire avancer la question de la fin des importations de pétrole en provenance de Russie et pour minimiser les relations avec Moscou pendant sa présidence du Conseil de l'Union européenne qui débute le 1er juillet. La République tchèque envisage toutes les mesures pour avoir des relations diplomatiques aussi normales que possible avec l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre tchèque Petr Fiala. Il répondait à la question de savoir si le gouvernement de Prague allait rouvrir son ambassade à Kiev et son consulat général à Lviv. Monsieur Fiala a indiqué ne pas vouloir entrer dans les détails pour des raisons de sécurité. La semaine dernière, le chef de la diplomatie avait déclaré que la République tchèque faisait des efforts pour redéployer ses diplomates en Ukraine. Le centre d'assistance aux réfugiés ukrainiens de Prague change de lieu ce jeudi, c'est ce qu'a annoncé le maire de la ville Zdeněk Hřib. Le centre était jusqu'à présent installé au centre des congrès, mais devrait rouvrir jeudi matin dans une ancienne banque du quartier de Vysočany. Et des dizaines de milliers de personnes, vous le savez, en grande majorité des femmes et des enfants fuyant la guerre de la Russie contre l'Ukraine, ont été accueillis au centre d'assistance depuis son ouverture. Prague restant la destination la plus populaire pour les réfugiés dans le pays. La Commission européenne a engagé une procédure contre la République tchèque pour insuffisance de tri des déchets. Les déchets sont mis en décharge en République tchèque sans traitement approprié car il n'y a pas de tri des différents composants des déchets et de stabilisation des déchets organiques. C'est ce qu'indique notamment l'exécutif européen. Le gouvernement tchèque a maintenant 2 mois pour répondre. L'Assemblée nationale du Sénégal a voté mardi en faveur de la convention signée en 2020 avec la République tchèque en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Selon la chef de la diplomatie sénégalaise Aissata Tall Sall, citée par Sud Quotidien, cette loi, une fois mise en œuvre, permettra de lutter contre la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sans créer la possibilité de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion fiscale ou la fraude fiscale. On termine ce bulletin avant de parler de météo avec du nucléaire et une nouvelle annoncée mardi, la fin annoncée du combustible nucléaire pour la centrale de Temelín en République tchèque, la fin du combustible russe. Le combustible nucléaire pour la centrale de Temelín sera fourni par la société américaine Westinghouse et la société française Framatome à partir de 2024. Les contrats portent sur une quinzaine d'années pour des montants non précisés mais équivalents à plusieurs milliards de couronnes tchèques selon le porte-parole du groupe énergétique ČEZ. Le carburant, le combustible utilisé jusqu'ici est fourni par la société TVEL qui fait partie du groupe public russe Rosatom. 3 entreprises avaient participé à l'appel d'offres lancé par ČEZ en avril 2020, Framatome, TVEL et Westinghouse. Un mot de sport pour vous dire qu'en foot féminin, les Tchèques ont raté leur qualification pour la prochaine Coupe du Monde en s'inclinant 1-0 face aux Islandaises. Pour plus d'infos, vous connaissez l'adresse. C'est sur notre fil Twitter, @radioprague.fr. Encore un mot sur la météo pour vous dire qu'il fait des températures printanières, mais que le temps devrait se gâter sur Prague, avec des nuages annoncés pour la soirée de jeudi et de la pluie. Voilà donc pour l'essentiel des infos. Le programme en français de Radio Prague International continue juste après ça.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour. Merci à Alexis Rosenzweig pour les informations. Vous êtes toujours sur Radio Prague International à l'écoute du programme en français. Aujourd'hui, nous évoquerons tout d'abord une campagne pour redéfinir le viol et mieux protéger les victimes. Nous parlerons ensuite des églises en bois d'Ukraine qui font l'objet d'un projet de datation par des chercheurs tchèques. Et cela avant de revenir sur l'opération K contre les religieux tchécoslovaques, qui a eu lieu dans la nuit du 13 au 14 avril 1950. Pour finir, sans mauvais jeu de mots, pour vous mettre dans le bain des jours fériés à venir, nous réviserons un peu de linguistique pascale. Très bonne écoute. Une campagne intitulée « Chceto souhlas », à savoir « Il faut un consentement », s'efforce depuis plus d'un an de redéfinir ce qu'est le viol dans la législation tchèque. Une discussion sur un éventuel changement a eu lieu mardi à la chambre basse du Parlement. De nombreux experts venant expliquer pourquoi, à leurs yeux, la définition actuelle ne protégeait pas efficacement les femmes contre les violences sexuelles. Le point avec Anna Kubishta.
Selon différentes études, environ 12 000 viols sont commis chaque année en République tchèque. Cependant, la police ne traite que 600 cas signalés par an, soit seulement 5% en tout. Pour mieux prendre conscience de la réalité de ce constat accablant, il faut imaginer que tous les jours, 34 personnes, en majorité des femmes, sont victimes de viols en République tchèque, mais seuls un ou deux cas arrivent jusque dans les mains de la police. D'après l'association Consent, une femme sur 10 et un homme sur 30 sont victimes de viols en République tchèque. Dans la foulée du mouvement MeToo qui a difficilement pris racine en Tchéquie, de nombreuses personnes, des femmes notamment, ont décidé d'appeler à une redéfinition du cadre juridique du viol. Selon le système juridique actuellement en vigueur dans le pays, les rapports sexuels non consensuels ne sont considérés comme un crime que s'il est prouvé qu'ils ont eu lieu sous la menace ou par l'usage de la violence. Selon les experts, une telle définition du viol décourage de nombreuses victimes de se tourner vers la justice. Veronika Ješkova de l'association à but non lucratif Profem est l'une des personnes qui demande une redéfinition du viol, estimant que l'actuel cadre juridique ne protège pas suffisamment les victimes.
Tout d'abord, le code pénal tchèque ne prend pas en compte les cas où la victime se trouve dans cette situation définie comme le frozen fright, la peur qui fige, qui est un moment où elle est incapable d'exprimer adéquatement sa volonté ou de se défendre contre l'agresseur. De même, le code pénal ne prend pas non plus en compte les pratiques sexuelles sans le consentement de la victime en l'absence de violence, de menace de violence ou de menaces d'autres préjudices graves.
13 pays européens, dont l'Allemagne voisine, le Danemark ou la Suède, disposent déjà d'une définition juridique du viol fondée sur le consentement et la campagne tchèque Chceto souhlas cherche depuis un an à faire en sorte que la République tchèque ne soit pas à la traîne en matière de protection des victimes. Cette question de consentement et de redéfinition du viol a redoublé d'acuité après les accusations de violences sexuelles portées l'an dernier contre l'ancien député du parti conservateur Top 09, Dominique Ferré, ou la récente inculpation de Jan Tsemetsky, un psychiatre très médiatique, poursuivi dans une trentaine de cas de viol et de chantage. Selon Veronika Ješkova, le gouvernement de coalition actuel ne serait pas hostile à un tel changement, mais elle souligne également qu'il ne se fera pas du jour au lendemain, car il nécessite une discussion approfondie de la part de la communauté professionnelle.
Une discussion avec des représentants du pouvoir judiciaire, des facultés de droit et d'autres experts doit avoir lieu pour s'assurer que la redéfinition n'est pas mise en œuvre à la hâte et faite au détriment des victimes. C'est un pas, un changement énorme et je ne pense pas qu'il faille faire cela dans la précipitation.
Les associations de défense des victimes de violences sexuelles estiment toutefois que tout changement législatif doit également être accompagné par de profonds changements sociétaux, alors qu'une grande partie de la société tchèque croit encore que la victime est en partie responsable de son viol.
Il est également important de sensibiliser le public au problème du consentement et des violences sexuelles, non seulement les étudiants en droit, mais aussi les étudiants et les élèves des écoles primaires, afin que la confiance dans les questions sexuelles soit ancrée en eux dès le plus jeune âge.
Les représentants des organisations de défense des droits de l'homme rappellent également que si la République tchèque est signataire de la Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, elle ne l'a toujours pas ratifiée. En novembre 2021, le Parlement européen a appelé le pays à le faire sans délai, et si le gouvernement de Petr Fiala, composé aussi de partis conservateurs, s'est engagé dans sa déclaration de programme à assurer une meilleure protection des victimes de violences sexuelles et domestiques, il a aussi demandé d'emblée le report de l'examen de la Convention à janvier 2023, suscitant de vives réactions dans le milieu des défenseurs des victimes de violences.
Des chercheurs tchèques et ukrainiens ont lancé un projet de datation des églises en bois traditionnelles se trouvant à l'ouest de l'Ukraine. Même si le projet a été perturbé par la guerre, le traitement des données collectées l'année dernière continue. Au micro de Radio Prague International, Tomáš Kolář de l'université Mendel de Brno explique la particularité de ces lieux de culte et l'utilité des travaux de dendrochronologie.
Nos recherches ne portent pas uniquement sur les églises en bois, mais également sur d'autres bâtiments construits en bois, tels que des beffrois et des chapelles. Mais la région de la Ruthénie subcarpathique, qui comprend non seulement l'ouest de l'Ukraine, mais également le sud de la Pologne, l'est de la Slovaquie, l'est de la Roumanie, est connue principalement pour ses églises en bois. Construites du 15e au 19e siècle, il ne s'agit pas uniquement d'églises orthodoxes, mais aussi d'églises grecques catholiques.
En collaboration avec des chercheurs ukrainiens, une équipe de l'Université Mendel de Brno et de l'Institut de recherche sur le changement climatique de l'Académie des sciences tchèques a concentré ses efforts sur les lieux de culte de l'ouest de l'Ukraine, autour des villes de Ujgorod et de Mukachevo, mais également de l'autre côté des Carpates, autour des villes de Drohobych et d'Ivano-Frankivsk. Dans cette région, le nombre d'églises en bois serait de 800. Sur les quelques 2000 églises en bois recensées en Ukraine, estime Tomáš Kolář. Il en explique la structure et leur apparence caractéristique.
Most of them were log churches.
La majorité de ces églises sont des constructions en bois massif empilé, c'est-à-dire qu'elles sont construites à partir de rondins à l'horizontale. Cependant, ces murs en rondins sont lambrissés. Ainsi, de l'extérieur, ce sont des planches que l'on voit. De par leur construction utilisant uniquement le bois, ces églises ont une atmosphère vraiment particulière. L'ambiance y est peu commune, d'autant que leur intérieur est orné de peintures en quantité importante, réalisées à même les murs, et souvent très colorées. Les intérieurs de ces églises sont donc très impressionnants.
Construites dès la première moitié du XVe siècle, ces églises en bois sont de petits bijoux du patrimoine culturel ukrainien et elles offrent un exemple exceptionnel d'architecture populaire. À partir du XIXe siècle, cependant, ce sont des églises faites de matériaux plus modernes que l'on a vu apparaître en Ukraine. L'état des églises en bois s'est alors détérioré et toutes n'ont pas survécu. Après la Première Guerre mondiale, alors que la Ruthénie subcarpathique appartenait à la Tchécoslovaquie, un groupe d'artistes et d'historiens tchèques conscients de la valeur de ces bâtiments a décidé d'en préserver certaines en les démantelant pour les transférer et les reconstruire sur le territoire tchèque. C'est ainsi que la pittoresque église Saint-Michel de Petřín, construite au XVIIIe siècle à Medvedovce, a été, en 1929, relocalisée sur la colline de Petřín à Prague. On précisera en passant qu'un incendie a tristement ravagé l'édifice en octobre 2020 et que sa reconstruction n'a toujours pas commencé. L'an dernier, l'équipe des chercheurs dont fait partie Tomáš Kolář a pu visiter une vingtaine de ces églises en bois restées en Ukraine et ils ont pu constater qu'elles étaient globalement en bon état. Tomáš Kolář explique le déroulement des travaux des chercheurs.
So first, when we come to a church, we divide building into...
Lorsque nous nous rendons dans une église, nous commençons par la diviser en plusieurs sections, y compris les murs, les plafonds, le toit et le beffroi. Ensuite, il nous faut trouver les derniers cernes de croissance formés avant l'abattage de l'arbre, car c'est là que nous prélevons les échantillons. Dans certains cas, l'écorce est toujours présente. Après, nous prélevons à peu près 100 échantillons pour chacune des sections du bâtiment. Avec cela, nous sommes en mesure de dater la construction de façon très précise à une année ou même une saison près. Pour obtenir l'échantillon, nous utilisons un forage creux. Grâce à cet outil, nous pouvons obtenir une carotte de 5 mm de diamètre. Nous la transportons ensuite dans notre laboratoire et nous mesurons la largeur des cernes de l'arbre. Nous déterminons ensuite la série de cernes de croissance et la comparons à la chronologie afin de dater la construction.
De cette façon, l'équipe de chercheurs tchèques a trouvé que si la majorité des églises analysées dataient du XVIIIe siècle, la plus ancienne d'entre elles remontait au XVIe siècle. Mais quelle est l'application pratique de ces recherches dendrochronologiques ? Tomáš Kolář.
As I mentioned, we can date the construction, so...
L'avantage de la datation est que nos collègues ukrainiens connaîtront l'âge des bâtiments et ils pourront éviter leur destruction. Mais cela peut également avoir une utilisation en climatologie. À l'avenir, nous disposerons d'une chronologie suffisamment bonne pour qu'elle puisse être utilisée pour la reconstitution du climat, par exemple. Cela signifie que nous pourrons reconstituer les conditions climatiques du passé dans la région.
Climate conditions in the area in the past.
Si la guerre en Ukraine a bien évidemment perturbé la poursuite des travaux des chercheurs de l'Université Mendel et de l'Académie des sciences, qui avaient prévu de se rendre cette année en Ukraine, le projet n'est pas abandonné, car le travail ne s'arrête pas au prélèvement d'échantillons. Loin de là. Tomáš Kolář.
Yeah, we have to process the samples.
Nous avons déjà collecté plusieurs centaines d'échantillons que nous devons maintenant traiter. Notre objectif principal est de créer une chronologie du bois et c'est un processus sans fin car il peut toujours être amélioré. Par ailleurs, nous ne sommes pas limités à l'Ukraine occidentale car la dendrochronologie n'est pas limitée par les frontières politiques, heureusement. Nous pouvons donc continuer à prélever des échantillons dans l'est de la Slovaquie ou au nord-est de la Hongrie. D'une certaine manière, notre projet peut donc continuer.
Dans la nuit du 13 au 14 avril 1950 a eu lieu la tristement célèbre Aktsé K, l'opération K, qui a vu l'incarcération de masse de plus de 2300 moines, ainsi qu'une saisie massive des biens de l'église et d'objets historiques. Et ce n'était que l'une des mesures de la répression brutale du régime communiste contre les monastères et les ordres religieux de Tchécoslovaquie. Nous vous proposons en rediffusion un reportage sur l'opération K contre les religieux tchécoslovaques, un reportage présenté par Magdalena Hrozinková.
En une nuit, ce sont des milliers de religieux de toute la Tchécoslovaquie qui sont raflés par les membres de la sécurité d'État et envoyés dans un camp spécial. L'opération a été préparée avec minutie, aucun détail n'est laissé au hasard. En 1950, au plus fort des purges staliniennes, le régime communiste tchécoslovaque a décidé de s'attaquer au clergé, considéré comme une menace, comme le rappelle l'historien Petr Blažek.
L'Église représentait pour les autorités communistes une structure qui échappait à son contrôle. Cela concernait notamment l'Église catholique dirigée depuis l'étranger.
Auparavant, d'autres attaques ciblées sur l'église avaient eu lieu. Un prêtre de la paroisse de Chihosht, Joseph Toufar, est par exemple accusé en 1949 d'avoir mis en scène un miracle. Il est arrêté et décède début 1950 des suites de tortures. Lors du procès Machalka, 10 hauts représentants des ordres des jésuites, des dominicains, des franciscains, des prémontrés, ainsi que des rédentoristes de l'église catholique grecque sont accusés d'espionnage et de haute trahison et condamné à des peines de prison exemplaires. Ces différentes affaires préparent d'une certaine façon l'attaque de grande envergure contre le clergé qui doit, aux yeux des autorités, régler le problème une bonne fois pour toutes. En avril 1950, l'opération K vide les monastères de leurs habitants. L'historien Jaroslav Šebek décrit son déroulement.
Dans la nuit du 13 au 14 avril, la police secrète, les soldats et la milice populaire ont encerclé plusieurs dizaines de monastères tchèques et slovaques. À l'aube, des centaines de moines ont été réveillés et déportés dans des lieux d'internement. Cette première vague d'internement a consacré les ordres principaux. Une deuxième vague a suivi 15 jours plus tard. Les monastères féminins ont été ensuite pillés au printemps et en été.
Lors de ces persécutions, certains membres du clergé ont été assassinés, d'autres ont été envoyés dans des camps de travail ou placés dans l'armée. Ce fut le cas du philosophe Karel Floss, âgé aujourd'hui de 93 ans. Jeune membre de l'ordre dominicain, il a passé plusieurs années dans des camps militaires de travaux forcés au sein des bataillons auxiliaires techniques réservés aux ennemis du régime.
Il y a eu beaucoup de suicides parmi les membres de ces bataillons, car un soldat ordinaire sait exactement combien de temps durera son service militaire. Or, nous ne savions pas combien de temps allaient durer ces travaux forcés. On nous a dit « vous serez libéré quand vous vous comporterez mieux ».
Le régime communiste a pillé 429 bâtiments appartenant aux ordres monastiques masculins, 670 bâtiments appartenant aux ordres féminins, quelques 2000 œuvres d'art, 2000 autres objets historiques et un grand nombre de manuscrits et de livres rares. Décimée, l'Église catholique tchécoslovaque parviendra à petits pas à se reconstituer dans la clandestinité au fil des années. Elle vivra une courte période de liberté dans les années 60, mais ce n'est qu'après la révolution de velours en 1989 qu'elle retrouvera sa place dans la société tchèque.
À l'approche des fêtes de Pâques, nous vous proposons de réviser les expressions tchèques qui sont liées à un élément indissociable de ce moment du calendrier chrétien, à savoir l'eau. Même si la tradition est moins d'usage en République tchèque, à l'exception de la Moravie, en Europe centrale cependant, et notamment en Pologne, Hongrie et Slovaquie, le lundi de Pâques est le jour de l'eau. Le plus souvent, ce sont les jeunes garçons qui arrosent les jeunes filles, manière symbolique pour eux de transmettre leur énergie vitale à l'être aimé. Élément indispensable à la vie, l'eau est aussi matière à une cascade d'expressions et de comparaisons. Et la langue tchèque ne fait pas exception à la règle, comme nous l'explique Guillaume Narguet dans ce reportage en rediffusion.
Puisque nous sommes entrés dans le mois d'avril, commençons tout d'abord avec un dicton qui se justifie particulièrement cette année, puisque l'ensemble du territoire de la République tchèque a été recouvert de neige pendant les trois premiers mois. Ainsi donc, selon ce dicton, beaucoup de neige en janvier équivaudrait à avoir peu d'eau en avril.
Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
Toujours en restant dans l'idée de quantité, pour désigner une personne qui parle beaucoup, on pourra dire
« Má řeči jako vody »,
soit littéralement « il a des paroles comme de l'eau », ce qui en fait équivaut aux expressions françaises « moulin à parole » ou encore « tenir le crachoir ». Dans un autre domaine, le célèbre proverbe français « bon sang ne peut ou ne saurait mentir » trouve son équivalent en tchèque avec
« krev není voda »,
soit « le sang n'est pas de l'eau ». Dans le même ordre d'idées, si quelqu'un est indifférent à toute chose, indolent, apathique, inactif, on pourra dire
« je netečný, jako by v něm ani vody, ani krve nebylo »,
soit « il est indolent comme s'il n'y avait ni eau ni sang en lui ». Enfin, pour souligner l'indifférence manifestée par une personne, on peut dire d'elle
« Má v žilách vodu místo krve »,
c'est-à-dire, mot à mot, « avoir de l'eau dans les veines à la place du sang ». Lorsqu'un travailleur gagne un salaire misérable, notamment parce qu'il n'est pas très dégourdi, actif, habile, on peut dire de lui
« Ani na vodu si nevydělá »,
soit « il ne gagne pas assez pour avoir se payer de l'eau » ou encore
« Nevydělá si ani na slanou vodu »,
il ne gagne même pas suffisamment pour avoir de l'eau salée.
voda je krásná, voda má, voda má, voda má.
Voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má.
En fait, ces deux dernières expressions, à savoir ne pas gagner assez pour se payer de l'eau ou ne gagner même pas suffisamment pour avoir de l'eau salée, signifient qu'il ne gagne pas de quoi vivre. Dans ces cas-là, on peut éventuellement lui venir en aide en le tenant au-dessus de l'eau.
Držet někoho nad vodou.
C'est-à-dire le protéger d'une disparition, d'une faillite. Cependant, parfois, si cette même personne ne parvient pas à surnager seule, à se maintenir, qu'elle est dans une mauvaise situation, bref, qu'elle va mal, ou que, comme disent les Tchèques, l'eau lui coule dans les chaussures,
voda mu teče do bot,
alors
nepomůže mu ani svěcená voda.
Même de l'eau bénite ne peut pas l'aider. Et ce, même si cette personne vit très modestement, par exemple, en cuisinant avec de l'eau.
Vařit z vody.
Et pour en rester avec les expressions relatives au sens figuré, à la cuisine, pour désigner quelqu'un qui n'est pas bête, idiot, mais plutôt intelligent, malin, on pourra le complimenter en disant
« Není z vody vařený. »
Soit littéralement « Il n'a pas été cuisiné avec l'eau », l'équivalent donc de « Il n'est pas né de la dernière pluie ». Au sens propre, pour ce qui a donc cette fois tout à fait rapport avec la cuisine, une boisson ou une soupe sans goût particulier, éventuellement même mauvaise, peut être comparée à de l'eau.
Nápoj, polévka je jako voda.
À l'inverse, lorsque quelqu'un consomme sans modération une bonne boisson, comme s'il y en avait des tonneaux ou qu'elle était gratuite, on pourra lui faire remarquer.
Piješ to jako vodu.
C'est-à-dire, tu bois ça comme de l'eau. Et si c'est une boisson alcoolisée, il y a des risques pour que le consommateur finisse par être sous l'eau.
Být pod vodou.
C'est-à-dire, comme vous l'aurez compris, complètement ivre.
C'est la fin de notre programme quotidien. Merci de votre attention et de votre fidélité. Rendez-vous demain pour la suite de l'actualité tchèque en français. D'ici là, continuez à nous suivre sur la page Facebook de Radio Prague International ainsi que sur notre page Twitter. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Ahoy !